c'est mon premier roman. Ah, d'accord, bon, je ne suis pas trompé. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs, Hervé Lark, vous êtes bien d'Épouville ou...
Alors, bien sûr, moi, je suis natif de Turto et j'habite sur Épouville depuis les années 2000. Et donc, l'écriture du roman est bien sûr pas mon métier. Ça s'est fait comme ça l'année dernière, mais je suis commercial de métier.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ou dans votre famille, on écrit
dans ma famille, aujourd'hui, il n'y a pas d'écrivain. Je suis par contre un grand lecteur, des auteurs tels que Harlan Coben, Dan Brown, Robert Le Blum en particulier. Et au cours des déplacements commerciaux, une histoire commençait à me monter dans la tête pendant 3-4 mois. Et au bout de 5 mois, lors d'une sortie sur La Rochelle, dans ma chambre d'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable en me disant bah, pourquoi pas essayer d'écrire cette histoire. Et c'est comme ça que ça a démarré le 18 septembre 2012.
Parce que vous avez dans l'émission, votre métier commercial, donc l'histoire, tout ça, le monde en fait, vous avez donc regardé une super émission de télévision. Donc ça vous donne envie. On fait un petit dossier professionnel de votre côté, mon côté.
C'était exactement ça. Ce soir-là, les dossiers professionnels étaient bouclés. La tournée du lendemain avec ma collègue était aussi cadrée et bouclée. Effectivement rien qui me plaisait à la télé. Donc on a sorti l'ordinateur et on a commencé à poser quelques phrases par rapport à l'histoire que j'avais en tête. Et puis de fil en aiguille, je me suis pris au jeu et sur ces 3 premières journées de déplacement, je suis rentré à la maison avec une vingtaine de pages écrites.
Alors il y a combien de temps que vous avez eu l'idée de faire ce livre?
L'histoire a commencé vraiment à germer, je dirais, aux alentours d'avril-mai. Au fur et à mesure que je roulais, je m'imaginais un personnage qui serait arrivé à des péripéties suite à une perte de mémoire et tous les éléments sont venus se greffer au fur et à mesure. Et plus je roulais, plus je me répétais cette histoire. Et voilà, ouais, c'est ça. Et puis 5 mois après, la mise sur papier. L'histoire était déjà complète dans ma tête. Du début à la fin, je savais comment ça allait se terminer.
Alors, on arrive quand même à bien dormir, on se réveille la nuit pour
non. Se réveiller la nuit, non, par contre, en roulant un dictaphone, des fois même en clientèle, ça arrivait, griffonner sur un bout de papier, une petite idée qui venait de traverser l'esprit. C'est vrai que ça accapare beaucoup l'imagination et l'attention.
Bah, c'est vraiment sur le client. Oh, lui, il a bien la tête du chien qui meurt.
Il n'y a aucun lien avec la réalité, bien sûr. J'ai pas de personnage existant dans mon livre.
Donc, une envie comme ça d'écrire un livre pendant pas d'études, vous n'êtes pas
Et
dans votre enfance, ça se passait comment déjà
J'ai commencé à lire très tôt. Au bonheur de mes parents, puisque dès que j'ai mis un livre entre les mains, du coup, je faisais plus de bêtises à la maison.
Et au niveau de la matière française, vous étiez un très fort en rédaction?
Non, c'était le contraire d'ailleurs. Non, j'ai jamais été à l'école, j'ai jamais été bon en français, si, surtout ce qui était à l'époque, grammaire, conjugaison, orthographe. J'étais pas mauvais, mais tout ce qui était fiche de lecture, rédaction, j'étais même plutôt mauvais.
Malheureusement, son prof, s'il nous écoute, il pourrait dire ah ben, c'est pareil, on peut le conseiller.
Ah, bien sûr, mais je leur conseille de lire, je serais bon, je ne pas savoir que même apprendre un jour pour faire quelque chose.
Je vous rappelle que le livre s'appelle l'opération de flamme pour passer à l'heure qui nous remet aujourd'hui. On va faire une petite minute pour se retrouver juste après. L'opération flamme pour écrite par Hervé Lark en auto-édition. Il est invité aujourd'hui dans sa réputation. Hervé Lark est un habitant de Pouville. Et le livre est sorti il y a longtemps.
Alors, le livre est sorti officiellement le mercredi 11 décembre. On a eu la chance de pouvoir faire une avant-première sur le Cap Saint-Léonard le samedi 7.
Ah d'accord,
ouais. Avec un très bon accueil de la part des lecteurs.
Donc c'est tout récent.
C'est tout récent, c'est vraiment tout récent. Et là, le bouche à oreille commence à se faire autour du roman, donc en espérant que le bouche à oreille soit bon dans les temps qui arrivent.
On a hâte de l'avoir dans les bras quand c'est comme ça.
Comme je dis toujours pour plaisanter, c'est une grossesse de 13 mois avec un accouchement sans douleur, mais avec un baby blues une fois que c'est fini.
C'est sûr. Alors, pour rentrer dans le sujet, comment donc, vous allez expliquer
soirée de la veille. Et le prologue consistait en fait à amorcer un petit suspense par rapport à cette fameuse soirée de la veille. Donc la première page fait une quinzaine, vingtaine de lignes, pas plus. Elle était bien, bien claire dans ma tête. Donc elle a été posée tout de suite. Ce qui était presque plus compliqué, c'est le chapitre 1, les premières lignes du chapitre 1, parce que là, effectivement, on dit comment je vais pouvoir commencer à présenter mon héros. Et là, j'ai choisi de démarrer directement par rapport à la gueule de bois et par rapport à ce qui était arrivé à la veille, plutôt que sur du descriptif du personnage.
On parle de cette fameuse jour, de cette nuit, on parle de ce fameux mardi 18 septembre,
c'est ça,
on est la personne sur la même. Le héros est le flic, le héros est le.
Ah non, le héros, alors je ne suis pas fan des super agents secrets, des super héros. Le héros, là, c'est vraiment monsieur tout le monde. Il s'agit d'un analyste qui travaille pour un laboratoire pharmaceutique qui fabrique des médicaments pour lutter contre les maladies pulmonaires. Donc lui, il est simplement analyste, il teste des prototypes et quelques produits finis, ça s'arrête là.
Donc c'est un fameux David Marsh, hein.
C'est ça.
Il est français,
De père Jean-Paul et de père Simone, en banlieue nord parisienne, un jeune homme de 37-38 ans, célibataire.
Donc là, en fait, ça passe dans un coin, ça passe plutôt dans la région parisienne, ou alors on visite le pays.
On va visiter plus que le pays, on va être amené à visiter l'Europe.
D'accord.
Voilà. Donc l'histoire va se déporter au fur et à mesure vers un autre pays européen. Toujours lié avec cette fameuse opération Flamme Pourpre. Savoir que la première partie du roman va plus être une partie policier polar pour plus arriver après en deuxième partie sur du thriller.
D'accord,
voilà.
Ok. Alors, au niveau de ces lieux, pour les décrire, est-ce que vous êtes des fois rendu sur place en région parisienne, par rapport déjà à votre métier? Et là, maintenant, c'est trop bien. J'ai pris une photo, j'essaye.
Vous n'êtes pas loin de la vérité. En fait, je ne me suis pas déplacé physiquement. Avec Internet, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des sites comme Google Earth, Google Street. Donc, tous les passages descriptifs sur les rues, sur les lieux, sur les villes, tout a été fait sur une base de Google Earth, Google Street. Tout est vrai, il n'y a pas d'invention. Les seules inventions qui va y avoir dans le livre sont au niveau parfois des noms d'hôtels ou des noms de personnel. Parce qu'on est quand même dans la fiction. Mais toutes les rues, si à un moment, lors de l'échappée du héros, si les gens veulent s'amuser à retracer son parcours à Mafia et Monsou, ils peuvent le faire sans aucun problème avec Google Street.
Alors, David Marchand, pourquoi David Marchand?
Ça aurait pu être. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça aurait pu tout simplement être Paul Dupont ou n'importe qui. C'est le nom qui m'est venu, c'est le nom qui est venu au moins. Très certainement aussi, parce que mon meilleur ami s'appelle David, donc ça peut jouer aussi. Mais il n'y avait pas de raison franchement particulière.
Alors, c'est David Marchand, il est marié, célibataire, divorcé.
Il est célibataire, il vit en banlieue parisienne dans un petit pavillon. Et c'est plutôt quelqu'un qui était très très bon dans ses études, hein, qui a fait des études pharmaceutiques, spécialisé en toxicologie, et son but, bien sûr, c'est de devenir chercheur, de faire sa place dans un grand laboratoire, et comme j'explique au début du roman, pour pouvoir devenir un grand chercheur, il faut qu'il maîtrise tout le process de fabrication de ces médicaments-là. Donc, il commence par la base, à savoir l'analyse des prototypes.
Il a une trentaine d'années.
Oui, c'est ça, 37 ans.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnages importants dans le livre?
Oui, bien sûr. Donc, on va retrouver l'inspecteur de police, Mathieu Desvilles, qui lui est un flic tenace, un ancien militaire très à cheval sur le protocole, à cheval sur les règles. On va retrouver l'assistante de direction du laboratoire au travail d'année qui s'appelle Marjorie Corrière, qui a un petit faible pour David et qui va être prise dans ses aventures relativement rapidement.
Alors, c'est un peu monsieur tout le monde qui est pris dans un engrenage.
C'est ça. C'est exactement ça.
Santé, financier,
assistant policier. C'est pas vraiment au niveau financier, c'est plus rapport à cette gueule de bois qu'il a eu la veille. La veille est sortie boire un verre avec le journaliste qui travaille avec lui, il s'appelle Simon Sini. Seulement quand David se réveille le mercredi 19, il n'a plus aucun souvenir d'être se rendre compte que Steve est mort, qu'en plus ça semble être un assassinat et que tout prouve que David Merchant a assassiné Steve Lansing. Lui est convaincu, ça ne peut pas être lui, donc il va réussir à s'échapper, mais sans papier, sans argent, sans quoi que ce soit, avec l'inspecteur de l'île à ses trousses, il va falloir qu'il prouve son innocence et son mémoire. En voulant faire ça, il va s'apercevoir qu'il a mis le doigt sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros qui s'appelle l'opération Flamme Pourpre.
Mmh.
Et là, je vous en dirai pas plus.
L'opération Flamme Pourpre, donc, vous posez la question, vous m'avez dit, hein, c'est une opération vraiment fait au secteur de
l'opération
de l'Occident, également Europe, et puis France. Est-ce qu'il y a d'autres histoires de David Marchand ou est-ce qu'il y a
une justice? Alors, une suite sur l'opération Flamme Pourpre, ça me paraît difficile. Une fois que les lecteurs l'auront lu, ils comprendront que c'est très très difficile de faire une suite à ce livre-là. Faire relire et revenir David et Mathieu, surtout notre François, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à décortiquer ces personnages-là. Je pense qu'en plus, ils sont vraiment complémentaires dans l'histoire. Et oui, ça serait une question de pouvoir les faire. Sur la première édition, l'auto-édition, j'ai tout financé moi-même. Donc, j'ai créé la maquette de la couverture avec un infographiste dessinateur du nom de Tim Wood, qui est le dessinateur d'ailleurs de la BD du Dranco, que beaucoup de monde connaissent, puisque sa BD est déjà sortie depuis un an. Une fois qu'on a mis en place la maquette et qu'il m'a présenté tout son travail, on m'a envoyé à Cotimedia pour qu'ils puissent eux contrôler la mise en page par rapport au format du livre. Et à partir de ce moment-là, ils nous ont envoyé un BAT, un bon à tirer, un livre témoin pour qu'on puisse l'allumer.
Alors voilà, vous faites corriger comment ça se passe, parce que c'est toute la partie un peu administrative, mais de ce moment intéressant d'avoir également
la plus compliquée, oui, parce qu'en fait, il faut trouver des correcteurs. Donc j'ai eu la chance d'avoir deux, trois personnes qui sont penchées sur la correction du livre, et vous allez voir, c'est anecdotique, parce que malgré le fait que je sois passé par vraiment des très très bons correcteurs, je ne sais pas si j'ai vraiment des trucs dans le district, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite polyclo d'orthographe qui est quand même passée au travers des toiles du correcteur. Donc il y a eu une première relecture, une deuxième, une troisième. Oui, ça c'est vraiment un travail très très minutieux. Donc le conseil que je peux donner à ceux qui s'auto-éditent, c'est vraiment faites au maximum relire votre manuscrit par des gens différents.
commencé à le lire.
Oui, il y a eu, j'ai eu deux ou trois personnes dans un premier temps. Puis après, plus j'ai créé mes chapitres, plus j'ai diffusé à un cercle familial et un cercle d'amis, en disant voilà, je ne vous demande pas de juger l'histoire, parce que l'histoire après, ça peut faire préparation, on n'aime pas le roman policier, l'histoire
pas fini, bien sûr.
Mais plutôt juger la forme. Est-ce que l'écriture donne envie de lire la suite? Est-ce que l'écriture est vraiment intelligible? On n'a pas besoin d'un dictionnaire à côté, ou de revenir deux pages après en disant il parle de lui, mais je ne vois pas qui c'est. Donc alors, voilà, le but c'était vraiment d'être sûr que le livre avait une vraie légitimité dans l'écriture. Et tous les retours qu'on a eus donnaient bien le sens que le livre était écrit de manière très très intelligible.
Bon, ben voilà, personne n'a lu.
Oui, c'était une des premières.
D'accord.
Bon, ça va être très bien, mais ça compte pas.
Est-ce que dans certains personnages, on dit ah, ben, je suis sûr que tu as pensé à l'autre, je suis sûr que tu as.
Non, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu une comparaison avec quelqu'un du cercle proche. Non, complètement.
D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi qui se mettent dans le livre? Oui, je crois que c'est très bien, puisqu'il va parler à un moment, voilà, c'est encore autre chose, c'est plutôt avec l'image. Mais vous, c'est un moment où vous apparaissez dans l'histoire?
Non, absolument pas.
Non.
Absolument pas. Le héros est esvelte et célibataire. Moi, je suis heureux marié, mais je ne suis plus esvelte du tout. Non, moi, je n'apparais pas du tout. Et de croche, de ma croche, il y a quelqu'un qui apparaît dans le roman.
Il le sait, non.
Il le sait, parce que je l'avais oublié. Si, il y a quelqu'un, il y a un de mes proches qui apparaît dans le roman.
D'accord.
Et ceux qui me connaissent en lisant le roman reconnaîtront très facilement la personne.
Oui. Mais sa réaction est.
Flatté. Il était content d'être dedans. Il faut dire qu'en fait, il m'a apporté aussi des conseils sur le livre, des conseils techniques par rapport à son métier. J'avais besoin, sans être trop précis dans le vocabulaire technique, j'avais besoin de quelque chose qui puisse être compris par monsieur tout le monde, et aussi quelque chose qui quand ce serait lu par quelqu'un du métier, qui puisse se dire, il n'a pas raconté de bêtises. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, lui, il m'a aidé pour ça. Tout comme la gendarmerie du Covid m'a aidé aussi. J'avais besoin de juste une petite information en cas d'échange entre police et gendarmerie sur une recherche de véhicule. Ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont donné toutes les informations dont j'avais besoin.
Oui, raconte, ça c'est un peu concret.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Le but, c'est que quelqu'un qui soit du métier se dise là, l'auteur n'a pas raconté de bêtises.
D'accord. Voilà. Ok,
tout est crédible.
On va sortir une pause en musique, Hervé, et puis on retourne juste après la pause. Nous allons monter l'édition de la Réda, son premier roman.
C'était même pas prévu.
C'est vrai?
Oui, en fait, quand j'ai contacté un éditeur pour avoir son avis, en fait, au bout d'une soixantaine de pages, je voulais savoir si ça valait le coup de continuer, puisque j'avais eu l'avis de ma femme, j'avais eu l'avis de tous mes amis, donc qui m'avaient tous conseillé de continuer. Et l'éditeur, il fallait l'avis d'un professionnel, en fait. J'ai contacté un éditeur, et puis j'ai envoyé les 60 premières pages en disant voilà, c'est pas mon métier, je suis dans les commerciales, je me suis lancé dans l'écriture d'un roman, je voudrais avoir l'avis d'un professionnel. Et il m'a répondu très gentiment le rythme est bon, l'histoire est probablement, donc continuez et envoyez-moi quand il sera complètement terminé. Rien avant. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et moi, par politesse, je lui ai répondu écoutez, je pense pouvoir vous livrer le roman au mois de février, ce sera un roman d'à peu près 280-300 pages. Et moi, j'ai terminé au mois de novembre à 623.
Bon,
écoutez. Ouais, donc c'était. Il fallait ça de toute façon par rapport à l'histoire, mais vu que c'était mon premier livre, je n'avais pas de recul, pas de notion sur le descriptif, l'évolution de l'histoire. Pour moi, 300 pages, c'était la norme d'un roman, c'est à peu près ce que je devais faire. Et en fait, j'étais beaucoup plus loin.
Et quel est votre ressenti quand vous tapez le dernier point final?
Eh bien, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est le fameux déguisement. Je suis redescendu dans le bureau et j'ai dit à ma femme, j'ai fini. Et j'avais la mine déconfite. Mais non, mais ça fait ça. J'avais terminé 13 mois de travail. proches, la famille et les amis, en expliquant voilà, le roman sort le temps, voilà le pitch, voilà tout ça. On a fait avec, avec la personne du livre dont on parlait tout à l'heure, hein, il a fait un très très beau site internet où là les gens pouvaient, je l'ai pas posté, communiquer avec les gens, donc j'ai offert un premier chapitre en lecture, des choses comme ça, et il a créé des rubriques où les gens peuvent me contacter, peuvent me donner des retours, peuvent me donner leurs avis, donc on a continué à faire la promo aussi via le site. Et puis après, la plus grosse des démarches a été d'aller convaincre les distributeurs sur le Havre. Donc moi, je m'étais fixé deux gros points de vente essentiellement. Je voulais un généraliste, que ce soit Leclerc, Auchan, mais je voulais vraiment un spécialiste, type la FNAC, Ciel,
la Galerne.
Donc j'ai attendu d'avoir ce fameux combat tiré en main, et je leur ai apporté, en leur expliquant ma situation. Voilà, auto-éditeur, policier, polar, thriller. Je cherche à faire ma pub dans la région, à faire découvrir le roman. Et là où j'ai été enchanté et où je les remercie vraiment tous, c'est que tous, quand ils ont eu le livre en main, ils m'ont dit bah, comptez sur vous, on va vous le prendre, on va vous le vendre. Et ils m'ont demandé à chaque fois est-ce que vous pouvez faire une dédicace, rencontrer le public pour présenter votre livre. Parce que c'est vrai que premier livre inconnu, c'est quand même pas gagné de pouvoir aller convaincre ces gens-là. Donc, avec le livre en main, c'était plus évident. Et en plus, eux de même m'ont donné la chance de pouvoir me présenter au lecteur. Donc, pour ça, vraiment, tous les points, je les remercie. Et le cours fréquent, pareil, qui m'a carrément proposé voulez-vous faire une avant-première, on va aller au-devant des lecteurs. Ils ont été très, très accueillants pour le roman et pour moi-même.
Du niveau de la communication, est-ce que la presse est spécialisée ou... aussi vous a encouragé, vous a aidé?
Alors, j'ai eu contact avec Paris-Normandie, le Combat Fréquent. Alors, le Combat Fréquent, par exemple, ils sont venus carrément faire une petite interview le jour de l'avant-première et ont relayé derrière, à travers leur journal, le roman, ce qui s'était passé, l'histoire. Paris-Normandie, pareil, relaie régulièrement les dates de dédicaces. Je sais que sur les prochaines dédicaces, il doit y avoir un journaliste qui va venir aussi refaire une petite interview cette fois pour Paris-Normandie. Là, j'ai contacté aussi le courrier Cauchois, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une édition la semaine, donc il faut vraiment caler par rapport à leur date d'édition. Et puis, il y a eu les médias comme vous, RVL, qui me fait déjà le plus grand plaisir de faire ma première émission radio. RVL, en plus, il y a Virgin Radio en décrochage local qui a annoncé les dédicaces. Donc, oui, progressivement, les médias formels, les médias locaux s'en mêlent et font une bonne pub du roman.
Notamment, en fin d'émission, on a annoncé les dédicaces, mais vous pouvez déjà en place la dédicace pour le milieu et puis.
Alors, hormis, oui, il y a eu l'avant-première, la semaine de la sortie, on a fait au champ d'Antillier, au champ Le Havre, Carrefour de Ville sur deux soirées. Et là, il nous reste le 28 décembre, où ce sera la dernière de l'année, avec la librairie Plancienne de Caserne. Après, on aura la FNAC et j'espère la Galerne de Milan.
Alors, comment premier éditeur s'est retrouvé derrière sa table, vous savez, avec le premier, le futur lecteur qui arrive. Quel est votre souvenir? Les gens tournent autour, vous posent des questions, c'est quoi là?
C'est impressionnant, c'est vraiment.
En tant que commercial, c'est pas facile, c'est peut-être plus facile de vendre un produit que de vendre son propre produit avec
ça. L'implication est sûrement pas bonne. La première sensation, la pire, ça n'a même pas été, je dirais, le jour de la dédicace, c'est deux jours avant, quand je suis venu apporter les livres, pour les avoir le jour de la dédicace. Et là, j'ai vu en grand dans le magasin un panneau. Venir rencontrer Hervé Gard pour l'opération Flampon avec ma tête sur le panneau, ouais, là ça fait quelque chose. Quoi. Et une fois qu'on est à table, on voit les lecteurs passer, il y a des gens qui vont sourire, il y a des gens qui regardent du coin de l'œil, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle. Et une fois qu'on a engagé la conversation, qu'on explique le roman, bah, naturellement les gens vous posent des questions et là on est pris dans le jeu. Quoi. Et étant donné qu'on a tout fait de A à Z, on est le meilleur vendeur et donc la première personne qui m'a acheté le livre, la première dédicace, bah, ça fait drôle. Et on ouvre le livre, on pense c'est pour qui, et là on écrit, on se dit mais je suis en train de signer mon livre à quelqu'un que je ne connais pas, c'est magique.
C'est magique. Et vous
chose de spectaculaire, ce qui était normal. Et par rapport à leur expérience, ils ont été un peu dans la corde de dire si vous vendez 5 livres sur une après-midi de 3 heures à des gens que vous ne connaissez pas, vous pourrez le faire parce que vous aurez réussi à vendre quelque chose qui n'est pas facile. Un livre, ça coûte 18,90 €. Donc même si on est à l'abri de Noël, bon, acheter un livre de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est une marque de confiance qu'on ne fait pas vendre vraiment souvent. Quoi. Et lors de l'avant-première, on a vendu avec le magasin 12 livres. Donc on avait déjà doublé par rapport à ce qu'il disait. Et lors de la suivante, qui était dans les 24 heures, qui était 48 heures de la sortie du roman, là on a fait carrément 20 livres. Donc c'était très très beau score.
Et à l'heure actuelle, à peu près, vous avez un peu les chiffres qui remontent comme ça.
Oui, là sur 300, je vais vous donner les chiffres à une semaine, comme ça c'était mercredi dernier, c'était une semaine qui était sortie. 150 exemplaires vendus sur 300. Il y avait 150 exemplaires, alors pas exactement 150, il y avait réellement 140 exemplaires vendus sur 300 exemplaires imprimés.
Donc c'est vraiment
une très belle peine. Ouais.
C'est ça, maintenant, actuellement, une dame dans son fauteuil, en train de vivre dans sa véranda, ou le soir, les gens.
J'ai une autre anecdote à ce sujet-là, c'est lors de la signature au champ Montigny, un monsieur qui me l'avait acheté à l'avant-première, donc il a posé ses courses là, et il m'a vu. Il est venu me voir, il m'a tapé sur l'épaule, il me dit monsieur, je suis à la page 473 et c'est génial. J'en ai des frissons dans le dos.
Comment vous avez fait plaisir à une personne?
Oui, je m'en fous,
Vous allez voir, donc si ça commence comme ça,
on a parlé de la famille, mais
par rapport à votre métier, est-ce que l'entourage professionnel est au courant?
Oui.
Ils l'ont lu.
L'entourage professionnel a été dernier au courant. Ils l'ont lu, pas tous. Certains l'ont acheté, donc là maintenant ils sont en train de lire, je pense. Mais alors, au niveau professionnel, j'ai prévenu en dernier. C'était pas forcément une volonté, parce que ça s'est fait comme ça. Mais mes collaborateurs, en fait, sont vraiment situés loin de moi. Étant commercial, mon siège était à Paris. Donc, c'était pas dans l'air du moment de prévenir les gens plus loin que de moi.
C'est une surprise pour les gens. Les gens n'étaient pas du tout au courant. Vous écrivez dans le
livre. Oui, mais j'en ai surpris plus d'un. Beaucoup qui m'ont dit, mais on ne s'attendait pas à ça. Quoi.
D'accord. Ouais. C'est bien, on va pas avoir votre personnalité. Et les clients, certains de nos clients, ça peut peut-être aider si le livre leur plaît.
Par contre, si c'est un livre, je t'en prie pas de me dire ça.
Voilà, c'est bien. participer à la prochaine édition, puisque là, justement, ils sont en recherche d'éditeurs.
Je suis en recherche d'éditeurs. Enfin, je suis en recherche d'éditeurs. L'éditeur à qui j'ai envoyé le premier, l'opération Flamme-Pour, et qui m'avait dit de renvoyer terminé, lui, il a en priorité, et je ne donnerai aucune autre maison d'édition, tant que lui ne m'aura pas donné son retour s'il édite ou non. Par contre, c'est clair que s'il n'édite pas, je vais être en recherche d'édition. Pour l'anecdote, je vais m'en priver tout simplement parce que c'était des éditions d'un compte d'auteur. Donc, on posait la question tout à l'heure par rapport à ceux qui écrivent. Surtout, faites très attention, ne partez jamais dans des éditions d'un compte d'auteur, ça va vous coûter énormément d'argent et pour très très peu de retour derrière. Voilà, juste préciser ça.
Merci bien, c'est bien de le dire. Alors, donc, l'avantage aussi pour un auteur, c'est d'être publié sur le plan national.
Voilà, c'est ça. Alors, soit sur le plan national, soit sur le plan régional, c'est la suite de la maison d'édition. Mais ça permet surtout de bénéficier d'une machinerie énorme derrière en termes de couverture, de publicité, de référencement dans les points de vente, puisqu'il y a quelques enseignes chez qui je ne pourrais pas mettre le livre, puisque je ne suis pas référencé. Donc, non, l'éditeur, c'est quand même c'est pas un choix, c'est quand même une finalité, c'est une obligation. L'auto-édition, c'est un choix. L'éditeur, il faut avoir à la fin, peut-être.
C'est ce qu'il y a dans la fait.
Je continue surtout à travailler en parallèle, donc c'est quand même le travail qui me fait vivre avec un opération Flamme-Pour, parce que la priorité reste quand même sur le travail.
Ce serait magnifique de lire,
je pense qu'il faudra vendre quelques dizaines de milliers d'exemplaires pour pouvoir en vivre.
Est-ce que vous avez aussi un des auteurs connus?
Pas encore, mais c'est un projet. C'est un projet avant de me lancer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai pas d'avoir vraiment des retours de lecteurs. J'ai eu des retours de libraires, j'ai eu des retours de quelques responsables de magasins à qui j'ai confié. Mais j'attends d'avoir vraiment le retour des gens qui ont investi dans le livre en l'achetant et savoir ce que eux ont sincèrement pensé. Et là, j'ai compris, il y a plusieurs personnes.
Mais je vais vous poser, parce qu'on pense naturellement à des auteurs connus, mais vous pouvez aussi en venir à des productions de télévision, pourquoi pas une série télé, pourquoi pas un film. Des fois, il y a des chaînes de télé qui recherchent des scénarios pour des séries, pour des téléfilms, qui pourraient faire le bon objet. Vous n'avez pas encore pensé à ça.
Ah, c'est quelque chose, vous n'avez pas changé, effectivement. Donc, vous ne cherchez pas une place d'agent par hasard.
Alors, c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à ça. Mais c'est une auteur, c'est une auteur un peu plus connue, au courant de la plage, mon partenaire, et la personne avait fait un billet dans son scénario dans une série sur France 2.
D'accord. Donc, ça va en plus. Connaissant l'histoire, c'est quelque chose qui pourrait être adaptable. C'est quelque chose qui pourrait vraiment être adaptable.
Ça serait vraiment la création du coup.
Mais je suis vos conseils et puis je vais
m'envoyer ça. Ok. Alors, l'émission, je suis à son tour. Est-ce qu'on peut rappeler, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le pitch de l'histoire sur une opération Flamme-Pour?
Oui, bien sûr. Donc, il s'agit des aventures de David Merchant, qui est analyste dans un laboratoire fabriquant des médicaments pour lutter contre les infections pulmonaires. Il va aller faire une soirée avec un petit collègue de travail et le lendemain matin se réveiller sans aucun souvenir de sa fin de soirée avec une gueule de bois hein, sans savoir comment il est rentré. Et lorsqu'il va retourner au travail, il va découvrir que son collègue avec qui il a passé la soirée, Steve Mancini, est décédé et très vite il va s'apercevoir qu'il a été assassiné et tout désigne comme le meurtrier. Il va donc devoir s'échapper, mais sans argent, sans mémoire, pour réussir à prouver son innocence, tout en découvrant quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, qui est cette fameuse opération Flamme-Pour.
D'accord. On rappelle la date de la